Bonjour. Bonjour. On va prier, puis après ça, on va commencer le cours. Bonjour au nouveau. Bonjour à Mme Leduc, Mademoiselle Leduc. Il manque plus de personnes ce matin que d'habitude. À mon avis, c'est l'avancement de l'heure. Il fallait avancer l'heure ce matin. C'est cela. On va prier, puis on commence. Seigneur, on te remercie pour cette journée. Merci. On veut se rappeler, Seigneur, du privilège qu'on a, de la grâce qu'on a d'être appelé tes enfants, d'avoir eu la grâce un jour d'être, que le voile qui était devant nos yeux soit retiré pour comprendre notre péché, réaliser notre péché et réaliser que par la foi, tu avais pourvu un moyen d'être sauvé de la condamnation à travers ton fils Jésus, qui a pris notre place, Seigneur, et on veut te rendre grâce chaque jour pour ça, on veut s'en rappeler. On veut se rappeler de cet évangile qui est précieux, Seigneur, qui fait toute la différence pour nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles, et tu nous parles par ta parole. Tu nous as laissé ta parole écrite. Où est-ce que tu te révèles à nous? On te remercie, Seigneur, parce qu'on n'est pas dans le flou et on peut connaître ta volonté. On peut apprendre sur nous. On apprend sur toi, surtout à travers les Écritures. On veut te remercier. Merci pour le livre de la Genèse, Seigneur, qui nous enseigne sur les origines de la terre, les origines du mal, nos origines, et qui nous aide à comprendre qui tu es davantage en tant que Dieu créateur. Et on te prie de ce matin encourager nos cœurs, bénir nos cœurs à travers ta parole, et qu'on puisse prendre le temps de méditer sur le déluge et ce que ça veut dire pour nous, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui sont ici ce matin. Je prie de me donner de la clarté et qu'on puisse avoir un bon temps ensemble. Amen. Bonjour. La semaine dernière, on a arrêté un peu brusquement. J'étais comme sur un air d'aller. Là, je vais clarifier l'idée sur laquelle je parlais la semaine passée. Fait qu'on va encore passer le cours aujourd'hui sur le déluge. Puis, je verrai après. Là, on va voir si je peux bien... En anglais, on dit « wrap up », bien résumer, finir la question du déluge. On pourra passer au sujet suivant, mais je n'ai pas de m'interrompre. Le déluge, c'est, contrairement à Genèse 1, on peut passer assez vite au travers. Le récit, lorsqu'on lit, est simple, mais il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Donc, lorsqu'on lit le récit des jours que Noé a passé, l'année qui a passé dans le déluge, on peut lire rapidement, mais le déluge implique tellement de choses qu'on peut en parler. C'est que des fois, c'est sûr... On va moins parler des versets, puis on va essayer de parler un peu des implications du déluge. Là, ça donne, c'était même pas prévu, là, mais en tout cas, si vous voulez le voir, du magma gelé, la roche volcanique d'Hawaï. J'avais oublié ça chez mes parents, ils m'ont ramené ce matin. Christine avait ramassé ça, je sais pas trop, là, il y a comme un coquillage d'encrustré sur le bord, mais j'imagine qu'il a dû se faire pogner par la lave quand elle a coulé, puis il a gelé là, c'est que, that's it. C'était dans nos bagages, on a ramené ça. D'ailleurs, ça, c'est probablement sur le bord de l'eau. Là, c'est à l'époque, probablement, quand la lave tombait, elle a gelé là puis, en tout cas, celle-là était dans l'eau. C'est pour ça qu'elle était un peu arrondie. C'est pas aussi cassant. Oui, puis non, il n'y a pas gelé. Il y a du chauffé là. Il y a collé là. L'idée que j'essaie de faire la semaine dernière, j'ai comme recommencé un petit peu le récit du déluge en parlant beaucoup des eaux souterraines qui ont jailli. Puis que ça a comme été ça qui a initié le déluge. Puis on a parlé comment est-ce que ça a dû amener énormément de modifications, juste ça. Mais avant d'aller plus loin, j'étais en train de parler de l'idée comme quoi que le déluge, en bout de ligne, le déluge, là, pour nous aujourd'hui, ça devrait servir ça devrait être un souvenir pour nous, un rappel. Un rappel qu'il y a eu une époque où ce que Dieu a jugé le mal, Dieu a jugé le péché qui était répandu vraiment d'une façon... incroyable sur la planète. On parlait de ça justement, hier ça a donné qu'on a parlé de ça avec des gens, là, puis probablement qu'il n'y a jamais eu une période de l'histoire humaine où le péché a été aussi fort et répandu qu'avant le déluge. Je m'explique, là, c'est lorsqu'on pense au fait que Dieu a trouvé une seule personne juste sur la terre qui a trouvé grâce à ses yeux. Puis quand on lit la Genèse 6, on voit vraiment une description que le cœur de l'homme était chaque jour porté vers le mal, chaque jour porté à faire à sa tête, et la violence était répandue sur la terre. C'est les versets, là, ça nous le dit. Puis les gens qui étaient connus à l'époque, les héros, c'était des gens particulièrement violents. C'est eux qu'on se rappelait, tu sais. C'est qu'imaginez-vous la situation à peu près après 1600 quelques années que la création avait eu lieu. Après, s'il n'y a pas de gap, là, on arrive après 1650 ans. C'est que là, les gens, les descendants d'Adam et Ève se sont reproduits. Là. Il y en avait du monde. On s'entend que les générations, imaginez-vous que certainement que la descendance qui invoquait le nom de l'Éternel, c'était important pour eux aussi d'avoir une famille, de faire des enfants. Mais je veux dire, quand tu vis 900 ans, tu en fais des enfants. Là. Puis tes enfants, ils en font après. Puis toi, tu continues à en faire aussi. T'sais. C'est qu'il devait y avoir du monde. Je ne sais pas combien, mais il devait y avoir énormément de monde. Puis une seule personne trouvait grâce aux yeux de Dieu, une seule personne invoquait l'Éternel à ce moment-là, c'est fort. Mais imaginez-vous le genre de péché qui devait circuler. En plus, Dieu avait retiré son esprit. Hein, dit, son esprit était là, mais il n'était pas là comme aujourd'hui où il habite parmi nous, il habite parmi l'Église. C'est que avec le Dieu avait averti éventuellement qu'il retirait son esprit aussi, qu'il ne contesterait pas toujours avec l'homme. C'est que certainement, là, on peut s'imaginer le genre d'immoralité, la violence. La violence par rapport à les valeurs familiales, la sexualité, le mariage, tu sais, je veux dire, ça devait être assez intense. Oui, Jean-Pierre. Tu veux dire plus? Je comprends ton idée. Certainement que si tu vis une vie où est-ce que Dieu n'est pas dans le portrait, puis tu as l'occasion de vivre longtemps. Certainement que ça peut amener une dynamique. Tu as l'occasion de vivre longtemps. Oui, certainement qu'à quelque part, tu peux t'imaginer qu'il y a de quoi. Là, tu peux développer toutes sortes de choses, j'imagine. C'est un bon point. Surtout qu'il y a un moment donné, comme on a vu dans le texte, c'est que les gens, il n'y avait plus de descendance qui invoquaient l'Éternel à un moment donné. Tout ça pour dire le point, c'est que le déluge est un événement vraiment universel, planétaire, et aujourd'hui, si on ignore pas volontairement l'avènement du déluge, on a des rappels partout ce qu'on regarde sur le déluge. Dans le fond, là, notre planète actuellement, elle est ce qu'elle est à cause du déluge et non à cause de la création. Là, beaucoup plus à cause du déluge. On parle tout ce qui est au niveau de la physionomie, de l'apparence de la planète, la géologie est un résultat du déluge directement. Donc, on se retourne d'abord et on regarde des roches sédimentaires, on regarde des continents qui sont composés de strates, tu sais, les sédiments, les couches sédimentaires, c'est un témoignage du déluge. On regarde les montagnes, toute la topographie découpée, tout ce qui est découpé au niveau de la géologie, les montagnes, les vallées, les gorges, les fosses océaniques. On regarde le pôle Nord, le pôle Sud, l'Arctique, l'Antarctique. On parle de tout ce qui est volcanisme, tout ce qui est séisme, toute l'activité séismique, l'activité volcanique sur la planète. Évidemment, le climat. On regarde évidemment toutes les fossiles qu'on trouve à l'échelle planétaire, tout ce qui est fossile. Puis même, il y a des... en anglais, on dit des fossil fuels. J'ai pas révisé mes notes, mais il y a même des sources d'énergie qu'on utilise comme le charbon et autres qui sont des résultats d'un phénomène qui est similaire à la fossilisation. On appelle ça en anglais, on les appelle des fossil fuels. C'est que même des sources d'énergie qu'on a utilisées se sont probablement formées suite au déluge, durant le déluge. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'envoie mes notes, mais oui, dans ces sources d'énergie-là. Ça, je veux dire, on se retourne partout. Puis si on croit dans les Écritures, même si on n'y croit pas, même pour une personne incroyante qui ne serait pas influencée par la société, pourrait voir qu'il s'est passé de quoi de catastrophique à un moment donné, pourrait y arriver à conclure à ça éventuellement. Le déluge, il est partout. Il est vraiment partout, puis à quelque part... Avec l'arc-en-ciel qu'on va voir plus tard, il y a de quoi pour nous, il y a un rappel pour l'être humain. Puis c'est une bénédiction pour l'être humain d'avoir ce rappel-là. C'est pas vrai que Dieu s'en fout de l'histoire humaine, c'est pas vrai qu'il n'intervient pas. Il intervient, puis il est intervenu à un moment donné, là, peut-être, je sais pas, entre 4 et 6-8 000 ans, il est intervenu d'une façon universelle. Ça l'a changé la donne. Certainement que il y a une bénédiction là pour la race humaine. Maintenant, lorsqu'on va dans 2 Pierre 3, c'est là que c'est intéressant de voir que dans les derniers temps, les moqueurs, ceux qui vont se moquer du retour de Christ, qui vont se moquer de ceux qui espèrent qu'un jour Dieu va intervenir puis que son Fils va revenir sur la terre, ben eux, ils basent leur argumentation et leur moquerie sur le fait qu'ils ignorent volontairement que Dieu a intervenu lorsqu'il a créé, puis Dieu est intervenu lorsqu'il a envoyé le déluge. On pourrait revoir éventuellement 2 Pierre 3. C'est pour ça que c'est important aussi de constater que le déluge était universel, puis ça a vraiment changé les choses. C'est pas juste de l'eau qui a monté pendant 150 jours qui a descendu après. Donc, une chose que j'étais en train de jaser la semaine dernière, puis je veux juste y revenir, parce que c'est probablement le fait... Un des faits, une des évidences visibles que les gens vont utiliser pour supporter la théorie de l'évolution, mais je vais juste vous montrer comment est-ce que c'est un peu un cercle vicieux, puis en même temps, on peut l'utiliser pour supporter l'évidence d'un déluge. On appelle ça la colonne géologique. Dans les livres d'école, ce qu'ils appellent, c'est vraiment lorsque, des fois, il y a des dessins qui nous montrent toutes les couches sédimentaires qui sont une par-dessus l'autre avec différents fossiles dans différentes couches. Puis l'idée, lorsqu'on étudie ça, parce que ça, l'existence des couches sédimentaires là, sur la planète, on en voit beaucoup, on voit partout l'existence qu'il y a des couches. Okay? Même on pourrait creuser dans notre coin, puis on réaliserait que c'est pas tous les mêmes sédiments qui sont séparés là, du dessus en allant plus profond. Puis il y a des places où c'est très évident, c'est comme le Grand Canyon, ou ceux qui ont vu des photos dans des livres du Grand Canyon, ça saute aux yeux. Là. Tu regardes, puis tu vois vraiment les couches. Puis, à plusieurs endroits sur la planète, évidemment, il y a des fossiles un peu partout sur la planète. Mais entre autres, c'est que l'idée qu'ils ont développée, c'est que dépendamment d'où est-ce que... L'idée derrière ça, dans le fond, c'est qu'à la base, le fait qu'il y a des strates, une des façons d'interpréter ça, c'est de dire que chaque strate, c'est chaque couche, c'est une époque où il y a une forme de sédiment qui s'est déposée avec le temps dans cette époque-là. Ça a pris du temps, puis peut-être ce pied de sédiment-là, c'était une époque qui a duré, je ne sais pas, 15 millions d'années. Là. J'invente des chiffres. Bon, puis à un moment donné, le climat a changé, les circonstances ont changé sur la planète, puis c'est pas les mêmes sédiments qui se sont retrouvés à se déposer par la suite, donc les prochains 3 millions d'années. Bon, mais c'est le prochain 6 pouces de strate où ce que les sédiments sont différents. Puis c'est comme ça que c'est interprété. Puis à travers ces sédiments-là, on trouve des fossiles. C'est que souvent, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans le fond, c'est qu'à quelque part, le fossile que je trouve dans les sédiments les plus bas, donc c'est certainement un animal plus vieux. S'il y a de quoi, c'est certainement un animal qui est l'ancêtre des suivants, parce que lui a vécu à cette époque-là qui remonte à plusieurs millions d'années. Et une fois qu'on a dit, mettons, que de tels fossiles correspond à telle période géologique, mais si on trouve ce fossile-là ailleurs, on va dire, on va dater même les couches sédimentaires sur la base de quel genre de fossile qu'on trouve dedans. Le problème avec ça, ultimement, c'est que cette colonne-là, elle a été interprétée. Les scientifiques ont déposé des yeux évolutionnistes sur la colonne, puis ils l'ont interprété que chaque couche, ça a été long avant qu'elle se dépose. Ça, c'est, ils ont assumé ça, ils ont présupposé ça en regardant la colonne géologique. Parce que c'est pas ça que c'est nécessairement que ça dit. Là, on va voir qu'on peut l'interpréter différemment. Et après ça, en ayant présupposé ça, ils ont présupposé que les fossiles dedans étaient de différentes époques, puis qu'un fossile évoluait dans un autre éventuellement. Le problème, c'est qu'ils ont présupposé ça. Mais cette colonne-là qu'ils ont bâtie, puis ils l'ont mis dans les livres d'école, qu'on retrouve pas partout d'ailleurs, parce que souvent elle est toute mélangée, là, comme on devrait s'y attendre si c'était catastrophique, est devenue un des appuis principaux, sinon l'appui principal en évolution, comme évidence pour l'évolution. Vous comprenez? C'est comme si l'outil que je me sers pour prouver quelque chose, mais cette même outil-là, là, je l'ai interprété avec la chose que j'essaie de prouver. Il y a un cercle vicieux ici. Ce truc-là se tient sur rien, c'est ça. Ça se tient tout sur la croyance en l'évolution. Parce que le truc, lorsque tu le regardes, il faut que tu croies déjà en l'évolution pour l'interpréter. Puis après, tu t'en sers pour supporter ta théorie. Parce qu'après ça, ils se servent de cette colonne-là à travers le monde pour dater des trucs, là, pour mettre des dates sur des trucs. Mais je veux dire, à la base... T'as présupposé que que c'était de l'évolution, mais t'es en train d'utiliser ça pour supporter ta théorie. Bon, ça a l'air simple, ça a l'air nono, mais ultimement, c'est à ça que ça ressemble lorsqu'on regarde la façon que c'est abordé. Maintenant, le point avec le déluge, c'est qu'on peut regarder la même chose différemment. Puis là, j'en ai parlé rapidement la semaine passée, mais la formation de couches sédimentaires, la formation de strates, ça n'a pas besoin de prendre du temps pour ça. Pour juste l'occasion d'un raz-de-marée local quelque part sur la planète, lorsqu'il finit de faire son activité, on voit déjà une façon que les sédiments se déposent. Une fois qu'il y a des sédiments qui se font transporter avec la roche, puis ça se dépose à quelque part, ça ne se dépose pas nécessairement pêle-mêle parce que les sédiments ont des poids différents, ils ont des volumes différents, ils ont des compositions différentes qui font en sorte que naturellement, on appelle ça la stratification, les choses se placent en strates. Vous prendriez, comme j'ai dit, un bocal avec différents minéraux dedans, de différentes grosseurs, différents poids, différentes compositions. Vous le brassez là, dans l'eau, là, puis vous le placez de même comme ça, là, puis vous allez voir. Vous pouvez faire ça, tu peux l'instruire tes enfants là-dessus, tu vas voir que déjà, ça se place déjà en couche. C'est dépendamment des sédiments, oui. C'est que le il brasse. C'est ça, ça sort de, exactement. Si c'est les mêmes sédiments dedans, en brassant, exactement. Donc, déjà en partant, vous comprenez que la même colonne géologique, c'est pas obligatoirement long qu'elle se forme. Ça peut être très court. Okay? Tu peux dire qu'il y a eu un événement à un moment donné qui a refaçonné la planète, puis qui a transporté les sédiments, puis ça peut s'être fait dans une période très, très courte. Je ne veux pas dire que la colonne s'est fait one shot, elle peut s'être fait déposer une place, puis après ça, l'activité du déluge se passait ailleurs. Là, il y avait 3-4 couches déjà déposées, ça avait eu le temps de se solidifier peut-être, puis après ça, plus tard, c'est revenu, ça a donné qu'il y a eu d'autres dépositions, ou ça s'est fait d'une shot, hein, mettons dans le cas du Grand Canyon. Parce qu'actuellement, probablement que la plupart des sédiments qu'on a sur les continents sont faits de roches sédimentaires actuellement. On peut s'attendre qu'une bonne partie, c'était probablement dans les anciens océans. Puis avec les raz-de-marée durant le déluge, c'est comme si les anciens fonds océaniques sont devenus nos continents aujourd'hui. Comme les sédiments qui étaient là ont été transportés, puis ça a été déposé ailleurs. Puis quand l'eau s'est enlevée, bien, ça a laissé des sédiments, puis ça a devenu de la roche sédimentaire. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est pas parce que tu trouves déjà l'existence d'un fossile, on en a déjà parlé, l'existence d'un fossile, c'est lié à une catastrophe. Un fossile, ça se fait pas sur des millions d'années. Un fossile, ça se fait subitement. Puis même aussi aujourd'hui, les gens vont admettre que les fossiles sont le résultat certainement de petites catastrophes à droite et à gauche. Sauf que là, on voit des fossiles partout sur la planète. Des fossiles qui sont même pas dans des... On les retrouve dans des climats où on peut même pas s'imaginer qu'ils auraient vécu là aujourd'hui. Donc, on retrouve des fossiles, autant de végétaux que d'animaux, dans des régions polaires. Et ces fossiles-là, on peut tout à fait... On constate tout à fait qu'ils devaient vivre dans des régions tropicales. Pourtant, on les trouve fossilisés dans les régions polaires aujourd'hui. Genre de trucs comme ça, exactement. C'est que, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Évidemment qu'ils vont, avec le temps, les gens, ils sont pas, les scientifiques, ils vont évidemment dire, bon, il y a eu probablement des périodes glaciaires, des périodes où ce que le climat subtropical est à grandeur sur la planète. Ils vont arriver avec des idées qui se rapprochent toutes à ce que les écritures disent, mais ils vont le mettre encore sur beaucoup de temps. C'est ça le point, c'est qu'ils ont besoin du temps. C'est pour ça que je vous dis, quand on a étudié le texte des Écritures, une première lecture du texte ne laisse pas de place pour du temps dans les Écritures comme les évolutionnistes le voudraient. Et les idées d'harmoniser les Écritures ou de donner du temps dans les Écritures, je parle de millions puis de milliards d'années, ça a toujours été historiquement des tentatives d'harmonisation, des tentatives de se rapprocher de l'idée populaire du temps. Okay? Ça a toujours été ça. C'est pas arrivé parce que quelqu'un, en lisant le texte, s'est dit « Aïe, c'est tellement évident que c'est des longues périodes de temps. » C'est pas ta réaction quand tu lis le texte une première fois. C'est ta réaction si tu as déjà une idée qui t'est amené de l'extérieur, que quelqu'un dit, ça fait long, la terre est vieille, et là, tu vas relire le texte avec cette idée-là. Mais, donc, les fossiles, la même chose. Là, l'autre fois, c'est ça que j'essayais de dire, c'est que c'est tellement pas ça qu'on voit souvent, les fossiles. Là, en général, on voit des fossiles un peu éparpillés partout. On voit des cimetières de fossiles, où tu as l'impression que des fossiles ont été pognés en tourbillon, puis tout pitché à la même place, que vous avez le terme, là, tout lancé à la même place, mélangé. On trouve des fossiles partout, puis même des fois, on va trouver des arbres fossilisés qui traversent plusieurs couches sédimentaires. Là, je veux dire, ça va pas bien déjà là. Je veux dire, si l'arbre a traversé plusieurs couches sédimentaires, c'est quoi? Là, il a vécu des millions d'années dans chaque période, ça n'a aucun sens. C'est. Là encore, ils vont respirer. L'arbre, au début, peut-être qu'il était d'une autre façon, puis avec l'érosion, il est descendu. Tu sais, là, on, sortes de théories pour essayer d'expliquer ça. Mais le point, c'est que on peut aussi s'attendre quand même à une certaine... On peut s'attendre à une certaine logique suivant un déluge. Okay? Je dis pas que ça va être la logique va toujours être là parce qu'un déluge c'est catastrophique, mais on peut certainement s'attendre que les animaux qui risquent d'être fossilisés plus dans le fond de cette colonne géologique là, ben certainement que les animaux plus aquatiques, plus simples, qui ont plus de difficultés à se mouvoir, on peut s'attendre à trouver plus de ce genre d'animaux-là dans le fond de la colonne, OK? Parce que c'est souvent les animaux aquatiques qui ont dû se faire attraper en premier quand les sources volcaniques, les sources sont sorties des fonds marins, puis après ça, que ça a créé des raz de marée ou etc. Eux autres étaient là, ils n'étaient pas sur la terre ferme quand c'est arrivé, là. C'est que, puis souvent, jusqu'à aujourd'hui, dans les fonds marins, il y a une sorte d'animaux unicellulaires ou des animaux un peu plus simples au niveau visuel pour nous. Évidemment, les animaux aquatiques. Puis lorsqu'on on regarde dans les textbooks, dans les livres d'école, bon, c'est souvent, t'as les animaux très simples en bas, à carapace, un petit peu genre... tu sais, l'animal qu'on voit souvent sur le bord de la plage, là, séché, là, la carapace. C'est ça, exactement. T'sais, ce genre d'animaux-là. Éventuellement, t'as des poissons, un peu plus cartilagineux ou un peu plus des poissons de fond. Puis là, tu montes la colonne géologique, là, les poissons, là, tu vois, je devrais m'en rappeler par cœur, mais éventuellement, ça va. Les poissons vont passer aux amphibiens, parce que c'est ça l'idée de la théorie, c'est qu'à un moment donné, il y a des poissons qui ont été adaptés pour sortir de l'eau, mais encore dépendant de l'eau, tu as les amphibiens. Après ça, les amphibiens, ça va partir aux reptiles. Qui ont moins besoin, qui dépendent moins de l'eau, mais des reptiles, je pense que les reptiles, c'est les ancêtres communs et aux mammifères et aux oiseaux. C'est que là, ça c'est la théorie de l'évolution. Là, il y a les oiseaux qui auraient évolué à partir des reptiles et éventuellement les mammifères de l'autre bord aussi et des mammifères, les primates, éventuellement des primates, on aurait l'être humain qui sortirait de là. Et souvent dans le cas de la colonne géologique, ce que je viens de décrire comme ordre, ça ressemble plus ou moins à ça. Mais pensez-y. C'est sûr qu'à quelque part, dans un événement de déluge, dépendamment de ce que tu vis, ton milieu d'habitation naturel, ta rapidité à fuir, admettons, des raz de marée approchant ou de l'activité volcanique pas loin ou de l'eau qui monte. On s'entend que c'était catastrophique à grandeur de la planète, mais il y avait des coins sur la planète aussi où, pour des moments donnés, où l'eau montait. Donc, tu pouvais juste t'éloigner du fait que l'eau montait, là. Il n'y avait pas un volcan au pouce carré non plus. OK, on s'entend que c'est gros, la planète. C'est, je veux dire, tu es un antilope, ben tu vas te tasser, OK? T'es une fourmi, ça se peut que tu te fasses pogner. Okay? Bon, on s'entend, là, c'est un peu plus du tough. Ben, puis l'autre amphibien, ben, lui, s'est déjà fait pogner parce que lui, il vivait proche de l'eau. Vous comprenez un peu l'idée? C'est que c'est clair que tu peux même réinterpréter le même genre de colonne géologique basée sur les critères, je viens de vous dire. Grosseur de l'animal, milieu naturel où ce qu'il vit, avec la rapidité de ma mobilité. Dans le fond, c'est clair qu'on risque de retrouver les êtres humains à la fin de tout, parce qu'on était assez brillants pour s'en aller. Là. Je veux dire, on s'entend qu'ils ne sont pas tous morts la première journée. Là. Ils ont dû courailler puis s'organiser là, à un moment donné. Puis les grands mammifères aussi qui ont une grande mobilité, qui vivaient déjà à l'état sauvage un peu partout sur les continents. Puis là, puis les oiseaux, c'est comme un peu normal que ce soit dans les derniers. T'sais. Mais en dessous de ça, tu as des animaux un peu moins mobiles, comme les reptiles. Tout ça, t'as les amphibiens plus dépendants de l'eau, puis là, on tombe dans les poissons après ça, puis hein, des plus petits poissons. Puis, vous voyez, je dis pas que le point, c'est que cette colonne-là, on la retrouve surtout dans les livres d'école. On la retrouve pas dans la nature aussi souvent qu'on la retrouve dans les livres d'école, OK? Parce que tu te promènes pas dans la nature, puis ils sont tout le temps, tu sais, bon, placardés comme ça, les...
Comme le déluge, certains, ça aurait dû produire de la boue, ça prend de la boue,
ça. Ça prend vraiment exact. Ça prend vraiment de couper un organisme vivant rapidement, de le couper de l'oxygène puis de tout l'organisme qui pourrait le détériorer comme des bactéries ou comme des animaux qui se nourrissent d'autres animaux morts, les scavengers. C'est qu'il faut, ça. C'est que puis après ça, là, une fois qu'il est, puis une forme de pression, c'est qu'une fois un raz de marée, donc un déluge peut provoquer un raz de marée, donc de la boue qui est transportée puis qui écrase ces animaux-là puis qui les engloutit rapidement, c'est un des phénomènes les plus évidents pour causer la fossilisation, parce qu'après l'animal va subir les mêmes procédés physiques qui vont solidifier les sédiments autour de lui, vont aussi agir sur sa carcasse qui va se solidifier, c'est ça, de fossiliser. Tu sais. Je n'ai pas tous les détails techniques, mais c'est ça l'idée derrière ça. Exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va les retrouver incrustés dans la roche. C'est comme s'ils sont imprégnés dans les sédiments dans lesquels ils faisaient partie à l'époque, se sont fait engloutir. Exactement. Puis si c'était juste dans l'eau, s'il traînait, je veux dire, aujourd'hui, une baleine meurt, là. Je dis une baleine parce que c'est un gros animal. Puis l'autre fois, on a regardé un documentaire avec les enfants où là, il y a des orques qui avaient attaqué comme une maman avec son bébé baleine. Puis ils ont séparé la maman du bébé. Puis ils ont réussi à pogner une coupe de bouchée. Mais je dis, à la grosseur que le bébé, ils ont mangé ce qu'il avait à manger, mais il en reste un méchant paquet après qui cale dans le fond, là. Mais là, cette carcasse-là, elle va pas durer longtemps, là. Il est en contact avec plein d'animaux qui vont venir se nourrir dans le fond, des crabes. Dis-moi ce que tu sais, peu importe ce que tu veux, incluant les bactéries, finalement, après je sais pas combien de temps, là, mais t'as plus rien, là, c'est fini. T'sais. C'est pas cette baleine-là, c'est pas comme ça que tu vas arriver à fossiliser quelque chose. D'ailleurs, j'ai eu. Ben, des fossiles, en passant, on en voit. Mon expérience avec les fossiles. Moi, ces toitures, je vois souvent des fossiles. C'est drôle de dire ça, hein, mais nous autres, sur les toitures, on. À cette heure, on n'en pose plus, nous, personnellement, mais on retire souvent le gravier. Les toitures plus sont faites en gravier, comme ici sur l'église. Puis, dépendamment des carrières, où ils vont prendre le gravier, puis ils vont le concasser. Souvent, dans les carrières, souvent, le gravier, on voit des fossiles de coquillages sur le gravier de toiture. Parce qu'ils l'ont concassé dans une place, mettons, une montagne qui à partir de rochers sédimentaires. C'est la roche sédimentaire qui se ramasse. C'est ça, c'est que dépendamment dans le coin. Puis on en voit souvent, là. Puis je trouve un malin plaisir à dire, bon, ça date du déluge, de l'envoyer au gars, voilà une roche qui date du déluge. T'sais. Fait que l'autre fois, si j'ai vu ça, si on avait fait un. Ou ce que j'ai vu des fossiles, si on avait fait un. Ça, je pense que c'était avec l'école, celle-là, je ne sais pas. J'ai fait deux voyages aux États-Unis à un moment donné pour faire un peu le tour du sud des États-Unis dans le contexte de l'école. À un moment donné, on est allé explorer les zones semi-désertiques du sud des États-Unis, là, le désert Sonoma puis ces coins-là. Mais en revenant, on passait par le Grand Canyon puis de ces coins-là, Arizona, Utah, tout ça. Puis il y a des coins où il y a beaucoup de fossiles de dinosaures. Puis tu passes souvent dans des réserves de Navajo. Les Indiens Navajo ont des réserves un peu comme on a des réserves pour les Amérindiens ici. Puis lorsque tu passes souvent, eux, ils s'installent des kiosques sur le bord du chemin, puis ils disent, ça a donné que dans le territoire, ils ont spoté une couple de fossiles. C'est que tu les payes pour qu'ils te guident puis qu'ils t'amènent aux fossiles. Puis carrément, une place, on voyait des traces de dinosaures. C'est quand même quelque chose d'être... C'est un terrain, là, c'est un grand terrain, là, assez semi-désertique. Puis chaque année, c'est comme des strates. Puis chaque année, avec l'action du vent, puis de l'eau, il y a de la strate qui casse. Puis celle du dessus, lorsqu'elle s'enlève, ça révèle une autre strate en dessous. Puis là, tu vois des traces de dinosaures. C'est que même, il y en a des nouvelles qui se révèlent. Là, tu pourrais te promener au marteau puis les casser comme la croûte du dessus pour voir en dessous. Puis là, tu peux constater carrément des traces de dinosaures, là, puis le plus petit des juveniles ou des plus vieux. Puis tu pouvais interpréter qu'il y en a un qui a couraillé dans quel coin. Puis tu voyais que les traces étaient... Mais c'était pas des traces de pas. Là, on comprenait que c'était gelé dans... Non, mais je veux dire, moi, je marchais, puis j'étais là. Il y avait juste une petite croûte comme ça qu'il fallait ôter. Puis la surface du sol, c'est qu'on voyait des empreintes fossilisées de dinosaures. C'est juste incroyable. Là, tu dis, aïe, ça date du déluge. Là, de toute évidence, ça date du déluge. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres fossilisations dans l'histoire de la planète. Il y en a même des répertoriés que j'avais déjà lus à cause de catastrophes locales, de déluges locaux. C'était intéressant de constater ça à ce moment-là. Ça, je voulais faire c'est une parenthèse sur la colonne géologique. Je ne sais pas si je m'ai bien exprimé, mais ça, c'est vraiment c'est tellement pas nécessairement une preuve pour l'évolution. Au contraire, elle est beaucoup mieux interprétée, cette colonne-là, avec un modèle biblique, avec une soumission aux Écritures. Ce que tu dis, OK, je vais étudier la nature, mais je vais l'étudier en considérant que la nature a été créée. Puis comme à un moment donné, elle a été refaçonnée au complet par un déluge universel. T'sais. Fait que là, tu approches la chose d'une façon différente. La même chose pour les dinosaures, là, encore, là, on en a parlé. Puis même, tu sais, ça c'est une idée que je n'avais pas dit. Il a dû y avoir énormément d'affaissement suite au déluge, parce qu'on s'entend que tout le système souterrain de canaux aquatiques et autres là, qui devait nourrir les anciennes rivières avant le déluge, etc. Je veux dire, ça s'est vidé, ça, en grande partie. Mais imaginez le vide que ça laisse là quand tu n'as plus la pression de l'eau qui est là en dessous. Il peut y avoir beaucoup d'effondrement. Fait que, tu sais, puis de l'effondrement, typiquement, là, on peut regarder, je ne sais pas si des cénotes là, au Mexique, c'est-tu après un effondrement que ça se forme, ça, une cénote, là? Mais en tout cas, c'est je pense que c'est qu'un phénomène physique, quand tu as un effondrement, que ça fasse un rond. J'ai-tu raison de dire ça? En tout cas, les cratères, quand un volcan se forme, okay, puis que là, l'éruption a lieu, puis il arrête, puis ça fait un comble, parce qu'éventuellement, à force de faire son éruption, il projette de la cendre, puis etc., ça forme un comble, OK? Mais lorsqu'il a fini son éruption, le volcan, toutes les chambres de magma qui sont en dessous, éventuellement, s'ils arrêtent de fonctionner, bien, ils se libèrent de leur magma, mais c'est vide. C'est pour ça qu'après ça, il se fait un effondrement qui a lieu, puis ça ferait un cratère. Parce que j'ai visité à Hawaï un des gros cratères, que là, c'est pas une montagne. Tu es sur le plat, puis à un moment donné, ça coupe de 400 pieds, puis tu as un rond de 1 km de diamètre. Là. Il y a peut-être 1 km le rond, mais il est plus ou moins rond. Mais c'est parce qu'il s'est effondré à un moment donné dans l'histoire de ce volcan-là. T'sais. C'est que son effondrement, quand même, a toujours une apparence sphérique. Je serais curieux, mais à mon avis, il doit y avoir un phénomène physique d'entraînement lorsque la Terre... Tu sais, on voit ça dans les films. Là, quand la Terre écrase, à un moment donné, ça fait comme un rond, je sais pas. Ça, c'était ma petite théorie sur le Yucatan. Là, je me dis, est-ce, pourrais-tu que c'est une région que ce soit effondré, puis ça donne typiquement... ça peut donner typiquement une forme plus ou moins ronde, je sais pas, là, de vue aérienne. Ça, c'est une idée personnelle. J'ai
écouté Michel à la radio cette semaine. Il parlait en Floride qu'il y a un homme qui est décédé dans sa rame marchée parce que le sol...
Ah, ouais.
Il appelle ça un sinkhole.
Ouais.
En français, c'est un doline, je pense. Hein? Un doline ou un doline nord.
Ouais.
C'est que ça, c'est causé par des rivières souterraines.
Ouais.
Ça cause en travers des sédiments où ce qui peut se dissoudre dans l'eau.
Ouais, ouais.
Comme le sel ou certains calcaires.
Ouais.
Qui peut se dissoudre, qui fait un grand cavité.
Ouais.
La taille cède. Ça fait un grand trou. Ouais. La personne est perdue dans le trou. Là.
Ouais.
Il y en a beaucoup de sang.
Oui, il y en a plusieurs.
Il y en a beaucoup. Ça arrive même une centaine par année.
Puis même, vous avez sûrement vu peut-être ceux. Moi, je pense que j'ai vu ça dans le journal La Presse récemment. Il devait y avoir dans le journal de Montréal. En Chine, avez-vous vu en Chine? Il y a un énorme trou qui s'est formé, énormément d'enfacement. Puis la population à côté est inquiète parce que c'est énorme comme effondrement. Mais je n'ai pas vu s'il y avait de l'air d'un rond. J'avais une petite photo.
Québec,
ouais.
Il y a des trous qui se sont formés et qui ne savent pas comment guerre ça peut être.
Ouais.
Ça fait juste 6 mois, 1 an.
Que 2-3 ans
que ça
traîne,
ça se
voit.
Ouais. À Québec. C'est des grands trous. Personne ne sait pourquoi.
Ouais.
Hein? C'est comme si à Montréal, ça peut arriver que les gars sur le terrain, ils ont causé des trous.
Ouais.
Hein? Le Richerbrook, là, même si le vent d'eau des tuyaux, ça n'empêche pas que les gars fassent la même chose.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est ça. C'est, vu que c'est encore une théorie pour la question du méga météorite de 10 km de diamètre, bien, c'est sûr que c'est encore une théorie que on peut trouver là, de minéraux extraterrestres. Là. Tant qu'à répondre, il y a énormément d'animaux qui sont éteints aujourd'hui. On le sait, on regarde les fossiles, puis c'est des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Ils se sont éteints à un moment donné. C'est clair que même si Dieu a préservé tout un couple minimum de chaque espèce dans l'arche, puis que Dieu a équipé les animaux comme les êtres humains pour s'adapter à toutes sortes d'environnements, c'est pas tous les animaux qui ont réussi à te faire run, à passer au travers par la suite, là, OK? Pas tout de même les espèces, parce que parce qu'on va juste le voir, là, mais la planète a grandement changé après le déluge. Il y avait des animaux qui étaient beaucoup plus adaptés avant, que là, c'était pas évident. Là. Je donne un exemple d'un dinosaure, les dinosaures volants comme les ptérodactyles, je vous avais mentionné que physiquement, ça aurait comme pas été possible qu'ils volent aujourd'hui basé sur leur poids présupposé puis leur grosseur. Il manquait comme d'envergure pour pouvoir planer dans notre atmosphère actuelle. Mais si on s'imagine une atmosphère avec plus de densité, où est-ce qu'il y a plus de pression, donc les gaz sont plus denses dans l'atmosphère, il y aurait eu plus de soutien pour pouvoir planer. Mais imaginez-vous, lui, après le déluge, là, dans cet exemple-là, je veux dire, il est un peu mal pris, là, OK? Comme bien des dinosaures, je vous l'ai dit, je vais revenir avec les dinosaures. Les dinosaures, Il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas en prendre en tête. C'est que les dinosaures, ça c'est prouvé aujourd'hui, ont un taux de croissance illimité, si ce n'est que le manque de nourriture, la compétition entre eux. T'sais. Certainement qu'il y a encore des reptiles aujourd'hui que s'ils étaient dans un environnement différent, ils grossiraient beaucoup plus qu'ils peuvent grossir aujourd'hui, puis on les appellerait des dinosaures. Là, okay? Puis même leur allure, prenez la même allure du reptile, puis grossissez-les 10 fois, on est rendu, on peut faire un film avec. Là. C'est, il y a ça. Il y a l'aspect qu'il y en a certainement qui ont subsisté pendant un bon bout de temps parce qu'on a beaucoup d'histoires de genres de dinosaures qui datent d'après le déluge. Que c'est ça, les histoires de dragons, les histoires de monstres marins avec les marins. Puis que ce soit jusqu'à récemment les légendes dans plein de pays, là, que ce soit le Nessie en Écosse ou d'autres, là, c'est pas juste des raconteurs. Moi, je crois pas à ça. Je crois qu'il y a certainement un souvenir de quelque chose qui a existé. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont tous disparu, mais il ne faut pas oublier que c'est ça. Eux, certainement, les animaux les plus gros qui étaient adaptés d'après la grosseur de poumons respirés dans une certaine atmosphère, on parle des dinosaures, entre autres, là, ils étaient vraiment dans un environnement très différent pour leur capacité de croître aussi facilement qu'ils pouvaient croître avant. Puis c'est clair, comme je vous l'ai dit, qu'après, dans Genèse 9, on va arriver, il y a une inimitié qui s'établit entre les humains et les animaux. C'est plus l'harmonie, là. C'est plus l'harmonie parfaite. Même, il y a une crainte, il y a une terreur. Les animaux vont nous avoir en terreur et vice-versa, nous, on va les craindre. Puis même, il dit, à un moment donné, je vais redemander le sang de l'homme qui tue l'homme, puis je vais redemander le sang de l'animal qui tue l'homme. Tu sais, c'est comme si l'animal ne pouvait pas tuer l'homme sans qu'il y ait une conséquence, même pour l'animal. Même dans le texte, on va aller voir dans Genèse 9 éventuellement. C'est que c'est comme nouveau, même, que des animaux peuvent tuer l'homme. L'homme, n'importe quoi, on aurait fait la même chose, je vous en ai déjà parlé. On veut protéger nos familles, on veut protéger nos villes qu'on construit. C'est clair que les premières affaires qu'ils vont faire, s'il y a des animaux menaçants dans les environs, ils vont les éliminer. Là, je veux dire, on élimine les animaux nuisibles aujourd'hui, là, que ce soit les moustiques ou les rats. Là, ils vont faire la même affaire. Là, je veux dire, s'il y a un clan de tyrannosaures là, qui traîne là, à 1 kilomètre de ta tribu, bien... Là, à cette heure, tu as la permission d'être tué, ou en tout cas, t'es, t'sais, je veux dire, là, le jeu a changé parce qu'on mange des animaux à cette heure, ce qui n'était pas le cas avant. Puis, il n'y a plus de tabou. Là. On peut chasser pour se nourrir, puis on peut chasser pour se protéger. Puis, tu sais, bon, whatever. C'est qu'on peut s'imaginer que même si ça fait peur un tyrannosaure, l'être humain avait déjà développé la métallurgie. Je comprends qu'il restait juste Noé et sa famille à ce moment-là, mais il avait sûrement des connaissances, puis ils ont retrouvé assez vite. Tu sais, tu t'en vas avec une coupe de lance puis une coupe de gars, là, tu sais, puis beaucoup de gars au pays, l'arrivée 150, s'en fout. À un moment donné, tu vas les exterminer, ces animaux-là. Puis, ben, si tu fais ça extensivement parce que les êtres humains sont en train de s'établir partout, mais tu peux aussi, on le fait aujourd'hui avec plein d'animaux aujourd'hui qu'on surpêche ou qu'on tue trop pour mille raisons. On le fait, là. Il y a des animaux qui vont s'éteindre à cause qu'aujourd'hui, on exagère dans notre chasse ou des places à travers le monde qui vont les tuer pour leur propre protection. Je veux dire, si tu vas en Amazonie, une place avec une tribu va tuer les anacondas dans son coin, puis cet anaconda-là, c'est un anaconda au point rose. Il y en a juste une sorte dans le monde, puis il traîne là. C'est sûr qu'à un moment donné, il va peut-être en rester 15 individus, si tous les villageois finissent par les tuer, puis ça lui fait peur. C'est qu'il va peut-être, cette espèce-là va peut-être être éteinte éventuellement, tu sais, bon. Comprenez l'idée, c'est que tout ça est, quant à moi, si on veut rester dans le modèle biblique, ce serait des raisons beaucoup plus plausibles pour expliquer, entre autres, pourquoi que les dinosaures seraient plus là. Je vais, s'il n'y a pas de questions, je vais lire un verset. Vous savez qu'on a même trouvé, des mammouths ou d'autres animaux. Il n'y a pas juste de la fossilisation, il y a aussi de la glaciation rapide. On a trouvé des animaux gelés. On a trouvé des mammouths dans Sibérie avec encore des végétaux d'indents, là, OK? Du foin poigné d'indents encore, là. Imaginez-vous, là, puis il était gelé comme ça, en mode, je marche, puis je suis en train de mastiquer. Ça a arrivé vite à votre goût, la glace, la glaciation? Ça va vers encore un élément catastrophique. Et il a dû avoir des hivers nucléaires rapides aussi. Okay. Oui, changement de météo, là, on n'a plus la couche d'eau. C'est que tout d'un coup, tout le système météorologique sur la planète a dû changer subitement. Jumelé à ça, qu'il devait avoir des nuages de cendres à certains endroits, ça devait être assez important. On peut s'imaginer, cette gang de mammouths-là était dans un coin où ça a dû changer rapidement la température. Je vous dis, pensez-y, là. Ils avancent, il broute, puis à un moment donné, il gèle là, puis il n'a même pas le temps de finir sa bouchée. Là. Tu vois, je pense qu'on ne réalise pas à quel point, c'est des extraterrestres qui ont zappé. Là. On ne réalise pas à quel point, surtout dans ces coins-là, qui perdaient un peu la part de la chaleur du soleil dans les pôles. Eux, ces pôles-là sont apparus rapidement lorsque la couche d'eau, après 40 jours, n'était plus là. Le 40 jours qu'elle pleut, il n'y a plus de couche d'eau. Les animaux que ça a donné, qui habitaient dans les bouts, eux autres, peut-être que ça a été un peu plus rough. Hein. Fait que, un verset que j'aimerais lire, parce que c'est un psaume, ceux qui veulent tourner, le psaume 104. Il y a quand même plusieurs textes dans les Écritures qui font clairement référence au déluge, puis des fois, on le réalise pas lorsqu'on lit. Là. Psaume 104, c'est certainement un des beaux textes qui montre que le déluge a un effet géologique immense sur la planète. Psaume 104. Je vais lire à partir du verset 1, mais on va arrêter au verset 9. Je vais lire du verset 1 à 9, puis vous allez me dire, après que j'ai lu, à partir de quel verset vous croyez qu'on commence à parler clairement du déluge. Donc, c'est David qui parle ici. « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il, en parlant de l'Éternel, s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Il étend les cieux comme une tenture. Il fixe les eaux sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. À tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'avais couverte d'un abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elle fuyait devant ta menace, se précipitait à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Es-tu d'accord? C'est assez clair de ce qu'il parle ici. Au début, verset 2, certainement qu'il y a une référence à la création lorsqu'il dit qu'il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux. Lorsqu'il dit au verset 5 qu'il établit la terre sur ses fondements, ben à partir de quel verset, à votre avis, ça commence à être clair qu'on parle du déluge? Verset 6, certainement. Juste le verset 6 tout seul, peut-être pas, mais si vous lisez 7, 8, 9, on arrive à 9, il y a vraiment une référence ici à un moment où Dieu a couvert la terre et toutes les plus hautes montagnes avec de l'eau. Puis après ça, une fois qu'elle l'a couverte, elle s'est retirée. Et dans le processus, il est en train de dire des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Puis à la fin, une fois que ça s'est, tu as posé une limite à l'eau pour plus qu'elle revienne, pour plus qu'elle revienne couvrir la terre. Donc, une belle référence à la promesse qu'on va voir avec l'arc-en-ciel. Mais là, il y a une belle façon poétique à la façon des psaumes de décrire ce qui se faisait géologiquement durant l'année du déluge, où des montagnes s'élevaient puis des vallées s'abaissaient alors que la terre. La terre était en train de se fractionner, puis de bouger, puis l'eau est en train de se retraiter dans les vallées nouvellement créées. Puis tu sais, on pourrait s'arrêter, là, même dans mon livre, une belle explication. Le gars, il prend 2-3 pages pour imaginer ce qui a dû se passer durant le déluge, tout sur la base de phénomènes physiques qu'on connaît aujourd'hui. Là. Ça fait super du sens. Tu t'imagines qu'est-ce qui a pu se passer physiquement durant l'année du déluge, puis tu vois avec lui un peu les montagnes se créer, puis les vallées se faire, tout par des phénomènes physiques naturels qui suivent un déluge. Oui, Josiane, excuse-moi. Ça, c'est pas clair dans le texte. C'est pas clair dans le texte. On en avait parlé au début, mais c'est pas clair parce que lorsqu'il parle dans Genèse 1, c'est clair qu'il n'y a pas. Genèse 1 nous permet de dire que la terre s'est ramassée dans un seul endroit, dans le sens que la terre se retrouvait avec le sec, puis les eaux se retrouvaient avec les eaux. Ils n'étaient plus mélangés ensemble comme quand la première journée de la création. Mais dans l'hébreu, les mots utilisés sont pluriels. Dieu appela les eaux, Dieu appela mer au pluriel, les océans, la mode des eaux. C'était vraiment l'idée que les éléments qui forment l'eau, ben, ils étaient maintenant séparés des éléments qui forment le sec, la terre. Mais ils pouvaient avoir plusieurs continents puis plusieurs océans. D'ailleurs, il y avait plusieurs océans dans Genèse 1. Le mot est au pluriel, vraiment. Dieu a appelé océan au pluriel la mode des eaux. C'est que ça, c'est pas clair, cette idée-là, qui était une idée qui peut être autant biblique qu'une idée évolutionniste, le continent. Fait que, c'est sûr, c'est que c'est... C'est pas... Ça, c'est pas aussi clair l'autre affaire que souvent on voit. Je pense pourtant on le voit à l'école. C'est que j'ai toujours, moi, je me suis toujours posé la question, puis j'avais entendu justement à un moment donné dans un documentaire, tu sais, la ressemblance entre l'Afrique puis l'Amérique du Sud. Tu as le feeling que tu les pousses un peu, puis ça va se coller comme un casse-tête. On s'entend que c'est pas mal là que c'est plus évident. Là, ailleurs, sur la planète, c'est moins facile de le voir. Mais ça, il ne faut pas oublier que l'eau, le niveau des océans sont à une certaine hauteur. Le continent, là, il n'y a pas cette forme-là jusque dans le fond de l'océan. Là. Tu baisses l'eau, mettons, tu baisses l'eau d'un kilomètre ou moins que ça, mais ça, on n'aurait peut-être plus le feeling que ça fit. On va en aller l'idée. C'est que c'est pas parce que l'eau est à cette hauteur-là que ça donne ce feeling-là que c'est automatiquement que ça va fitter. Là, c'est. Puis l'eau n'a pas toujours été à ce niveau-là non plus, tu sais. C'est ça. Oui. Tout à fait. Puis dans ce cas-là, c'est pas aussi clair là, la compatibilité. Y a-t-il une question? J'ai vu peut-être une main se lever. J'aimerais ça terminer avec les conséquences du déluge, OK? Oui. Conséquences du déluge, j'en ai une couple, là. Certainement que maintenant, après le déluge, les océans devaient être beaucoup plus importants. La masse océanique devait être beaucoup plus grande qu'avant le déluge, parce qu'avant le déluge, il y a une bonne partie des eaux actuelles qui étaient prises dans la couche d'eau, puis dans tout le réseau souterrain d'eau. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans les océans. Okay? C'est qu'on s'entend qu'aujourd'hui, il y a moins de place au sec, probablement même, il y a moins de place pour vivre qu'il y en avait avant. OK? Donc, les océans, ils prennent beaucoup plus de place qu'avant. Donc, en contrepartie, les parties sèches, les parties continentales devaient être beaucoup plus répandues, beaucoup plus grandes avant. Ça fait du sens avec la création. Dieu veut que l'être humain se répande sur la terre. Il faut toujours bien qu'il y ait plus de terre. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'eau que de terre. À un moment donné, là, tu ne vis pas dans l'eau. Hein. C'est que, évidemment, comme on vient de mentionner, la couche d'eau a disparu. On ne l'a plus aujourd'hui, cette couche d'eau-là. Ça, c'est durant le déluge qu'elle a disparu. Et certainement, lors de sa disparition, durant les premiers 40 jours du déluge et suivant l'année suivante et des années par la suite, ça a inauguré rapidement au début une accumulation de neige et de glace au niveau des pôles. Donc, la formation des capotes polaires, puis la période de glaciation s'est faite là. L'ère glaciale là, qu'on parle un peu partout, le Ice Age, le film L'ère de glace est inspiré de ça, le film de pour enfants. Donc, ça s'est passé certainement après la disparition de la couche d'eau. Est-ce qu'on avait plus un climat tropical à grandeur de la planète? Donc, ça rendait encore une partie de la planète inhabitable. Donc, les plus grands océans rendent une partie de la planète inhabitable. La présence maintenant des glaciers... Des pôles, encore la planète, elle devient moins habitable. Maintenant, après le déluge, toutes des chaînes de montagnes qui se sont créées, qui n'étaient pas là avant à cause des mouvements tectoniques puis des mouvements volcaniques, on se ramasse avec des grosses zones terrestres à cette heure qui sont très découpées, avec des montagnes très élevées, très abruptes. Puis lorsqu'il était rendu en haut de la montagne, il n'y a même plus de végétation, là, des neiges éternelles. Encore là, on se ramasse avec des régions qui sont encore pas plus habitables pour l'être humain comme pour les animaux aussi. Fait qu'on s'attend aujourd'hui, même notre planète, c'est pas l'idéal de ce que Dieu avait créé. Là. On est vraiment un résultat d'un jugement. Là. C'est super beau encore, on peut s'émerveiller devant un papillon, puis on peut comprendre qu'il y a un créateur qui existe lorsque tu observes un papillon, ou peu importe de ce qu'il y a dans la nature. Mais le reste, on peut aussi constater qu'il y a quelque chose qui a changé. Les vents, les tempêtes, tout ce qui est vent, tout ce qui est tempête, tornade, ouragan, la pluie, la neige, maintenant c'était possible ça, puis avant c'était pas possible. Donc suivant le déluge, c'est devenu possible. Et tout ça, ça a rendu l'environnement beaucoup, beaucoup moins facile d'habitation pour les animaux puis pour les êtres humains que ça l'était avant. Et on va le voir, c'est pas pour rien que l'arc-en-ciel est apparu pour la première fois après le déluge. Vous savez qu'un arc-en-ciel, ça prend de la pluie et du soleil en même temps. C'est-à-dire qu'il pleut dans ta face, puis il fait soleil dans ton dos, tu vas avoir un arc-en-ciel dans ta face, parce que les rayons du soleil passent à travers les gouttes d'eau qui sont en avant de toi, Puis lorsque le rayon lumineux passe dans la goutte, ça fait une diffraction, c'est-à-dire que dans tout le spectre des couleurs va se manifester. C'est que là, pouf, là, tu as toutes les couleurs qui sortent, mais toutes les gouttes d'eau font la même réaction au faisceau lumineux qui passe dans les gouttes d'eau. C'est qu'on se ramasse avec. C'est un phénomène physique, là, explicable, mais Dieu a pris ce phénomène-là nouvellement apparu après le déluge et s'en est servi comme un signe d'alliance. On va le voir éventuellement. Donc, l'environnement, une sixième conséquence, l'environnement était rendu plus hostile parce que maintenant, on n'avait plus la protection de la couche d'eau des rayons cosmiques nocifs. Là. Parce qu'il y a des rayons nocifs qui nous proviennent du soleil, qui nous proviennent du reste de l'univers. Puis certainement que ça peut expliquer la réduction de la longévité de vie de l'être humain après le déluge, OK? Parce qu'on a, il y a un élément de protection qu'on a perdu. C'est toute la question maintenant des mutations génétiques, la dégénérescence, la détérioration. On peut certainement en lier une grande partie à la disparition de cette couche-là. Puis vous lisez le récit, vous lirez le récit si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous regardez les généalogies, les âges ont diminué grandement après le déluge. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça l'a fait. C'est comme si avant, les gens vivaient là, puis après le déluge, ça l'a descendu rapidement. C'est quelques générations, puis les gens étaient rendus à vivre. On parle d'Abraham et Sarah, c'est une histoire très récente après le déluge. Là. Le début de l'histoire éventuelle du peuple d'Israël commence avec Abraham. Puis je pense que Sarah avait 90 ans, lui avait 100 ans lorsqu'ils ont eu l'annonce de la promesse. Puis ils n'y croyaient pas parce qu'ils étaient d'un âge avancé. Sarah, elle a ri de tomber enceinte parce qu'elle était rendue à 90 ans. Comprenez? Mais là, il n'y a pas longtemps, les gens vivaient 10 fois plus longtemps que ça. C'est qu'à 90 ans, déjà, tu étais plus supposé d'avoir d'enfants à l'époque d'Abraham et Sarah. Vous comprenez que ça l'a baissé vite. Maintenant, des glaciers, les rivières Il y a des gros glaciers, puis des grosses rivières et des lacs puis, qui ont dû exister pendant un temps, puis qui ont dû exister pendant un temps après le déluge, qui ont éventuellement fondu, l'eau s'est répartie, puis aujourd'hui on approche un état plus de semi-aridité sur la planète. Il y a une époque où ce qu'il y avait après le déluge, qu'il y a dû avoir des glaciers puis un peu plus répandus avant que tout se stabilise. Huitième, on parle de, je traduis en même temps, c'est tout en anglais là. Suivant le déluge. C'est clair qu'il y a eu tellement d'activités sismiques, volcaniques durant l'année du déluge que la Terre s'est ramassée à être plus instable qu'elle était avant. C'est que même jusqu'à aujourd'hui, ça a dû être intense l'année du déluge, ça a dû être intense les années suivantes. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, toutes les volcans, toute l'activité volcanique puis l'activité sismique, les tremblements de terre qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Puis même si on est capable de calculer aujourd'hui que les continents bougent encore, là, je ne sais pas, d'un centimètre ou deux par année, là. Ça, c'est encore des vestiges. Même jusqu'à aujourd'hui, l'instabilité puis la secousse ou les contre-coups du déluge se font sentir des milliers d'années plus tard. Parce qu'avant le déluge, il n'y avait pas cette activité-là volcanique, sismique sur la planète. Là. Elle était presque plate. C'est clair qu'il y avait des monts. C'est clair qu'il y avait des monts, des collines. On a des textes qu'on peut le montrer, mais ça ne rendait pas la terre inhabitable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair, Dieu n'a pas créé une sphère strictement sphérique, mais c'était pas de quoi qu'elle allait nuire à l'habitation, qu'elle allait nuire au déplacement même des êtres humains. C'était bien. T'sais. Si tu n'allais pas chez ton cousin l'autre bord, tu n'étais pas obligé de traverser une montagne et de souffrir comme un bœuf. C'était généralement, c'était oui. Plat, si on compare à aujourd'hui, c'était certainement beaucoup plus plat. Okay, mais ça n'empêche pas dis ça parce que regardez la Lune, par exemple. Dieu l'a créé comme ça. La Lune n'est pas flat non plus. Il y a un aspect que Dieu, on en avait déjà parlé, Dieu aime la diversité. Dieu n'est pas plat dans sa création. J'achève, il me reste une minute, même pas là. Certainement que tout de suite après le déluge, il ne devait pas avoir beaucoup de végétation. Vous comprenez que ça a pris un bout de temps avant tout de se reformer, ça. Parce que là, il devait y avoir des graines, puis des entailles, des retailles d'arbres et de végétaux qui traînaient dans tous les sédiments. Puis il y a d'ailleurs, l'olivier est un arbre qui pousse très rapidement dans des circonstances assez arides et capable de pousser. Puis c'est une des premières choses que la colombe a ramenées. C'est une branche d'olivier. Là. C'est intéressant. Il y a toute une petite étude à faire sur l'olivier, juste basée sur cette histoire-là. C'est sûr que ça a pris un bout de temps avec la végétation surface, mais ça s'est refait quand même assez vite. Mais c'est Noé, quand il est sorti, c'était pas nécessairement la jungle. Okay? On s'entend que il était peut-être bien content de pouvoir chasser, en tout cas, whatever. Manger une coupe des animaux peu. Que, c'est pas clair non plus. Peut-être des fois, j'ai dit qu'il avait tout sacrifié les animaux peu, qu'il avait pris les 7 coupes. C'est pas nécessairement clair non plus qu'ils aient tout fait. Il a peut-être, s'en est peut-être gardé une coupe pour manger. Parce qu'il se disait que le gazon, il y a quand même, il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça revient assez vite. Mais que ça redevienne aussi loche, mettons, dans les régions tropicales, ça a dû prendre un peu plus de temps. Là. On s'entend que les arbres ne poussent pas de même non plus. T'sais, tout ce qui est végétation, on rôle sol, plantes, tout ça, ça peut aller vite, mais les arbres, ça prend quand même un bout avant de repousser puis redonner son fruit, mettons. T'sais. C'est que il y avait certainement un peu de temps. Là. C'est que c'est peut-être l'huile d'olive qui ont fait en premier. Finalement, c'est l'olivier que la colombe avait été chercher. Il y avait une coupe d'olive dessus, c'est qu'il a pu manger ça avec un peu de salade. Puis, je finis avec ça. Ça, c'est une possibilité, c'est juste une théorie, mais je la mentionne pour ceux que ça peut intéresser. Il y en a qui ont même suggéré que peut-être la rotation de la Terre a changé suite au déluge, tellement que la planète a été bardassée. Que ça se pourrait que la rotation de la Terre aurait accéléré. C'est juste une théorie. Puis ça pourrait expliquer d'autres choses. Peut-être que les années étaient plus courtes avant le déluge. Peut-être les années étaient 360 jours au lieu de 365. C'est-tu qui est contraire? Hey, wait, really, okay. Speed it up. Okay, si ça allait plus vite, la Terre, ça veut dire... Whatever. Moi, ouais, c'est ça. En tout cas, il y avait la possibilité que la rotation de la Terre, ce serait augmenté d'un 0,5% si vraiment les années avaient été de 360 jours avant le déluge. C'est juste une théorie, mais il y en a... mais c'est bon, whatever. Parce que l'activité sur la Terre, c'est une théorie, il faudrait que je regarde plus, mais l'activité qui faisait bouger la Terre, qui a fait bouger la Terre durant cette année-là, l'aurait peut-être accéléré. Je pense que ça vient du fait que ça pourrait accommoder certains calculs si les années étaient de 360 jours avant le déluge. Ça accommoderait certains calculs, entre autres avec des prophéties dans Daniel, des trucs comme ça. Je pense que c'est de là que ça vient, là, cette idée-là.
S'il y avait de l'eau à l'extérieur, cette masse-là sera proche.
Je comprends, OK. Ça ferait du sens. Donc, si la couche d'eau qui était plus loin, finalement, se ramasse sur la Terre, on augmente le poids de la sphère qui tourne, puis ça la fait accélérer en physique. Ouais, c'est sûrement aussi c'est pour ça, parce que...